بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Donc nous sommes toujours en train de parler de, bien sûr dans le cadre de l'introduction à l'aqaïd. Aujourd'hui nous allons continuer et essayer de terminer ce qu'il fallait dire sur Al-Sunnati wal-Jama'a. Donc après avoir défini le terme et après avoir donc dit ce qu'il en est pour ce terme et d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut dire. Dans la première séance, la deuxième séance, nous avons dans la deuxième séance parlé de qui, parmi les savants et parmi depuis l'âge de Sahaba, donc depuis la génération de Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, qui peut représenter, je ne dirais pas qui peut prétendre reconnaître Al-Sunnah ou Jama'a, parce que personne ne le prétend, mais les gens ils sont reconnus. Sahaba reconnus par le Coran et par le Sunnah, et leurs disciples reconnus aussi par le Coran ou le Sunnah. Et tous ceux qui les suivent jusqu'à la fin des temps sont aussi reconnus soit par le Coran Sunna implicitement, soit par leurs disciples. Et donc cette science, la science, elle est transmise génération après génération. Et je vous rappelle le hadith de Nabi Asusam qui dit « يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمِ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ». Maintenant pour celui, donc on a parlé de certains, on a cité quelques noms parmi Sahaba et parmi Tabi'in, et parmi Tabi'i Tabi'in, donc dans les trois siècles qui ont vécu après le Nabi alayhi salatu wassalam, qui représentent dans l'Ur al-Arabiya, qui représentent dans l'ilm al-Hadith et dans le riwayat al-Hadith, qui représentent al-Sunnah al-Jama'a al-Fiqh, etc. Si vous voulez avoir plus d'informations et arriver jusqu'à nos jours, je pense que le mieux c'est de consulter un fameux ouvrage qui est écrit par un des savants contemporains qui est décédé maintenant bien sûr, et qui s'appelle Al-Fikru Sami fi Tarikh al-Tashri' al-Islami. Al-Fikr Sami fi Tarikh al-Tashri' al-Islami. Donc lui il parle des savants le long de tous ces siècles-là jusqu'à nos jours. Et il est écrit par Al-Hajwi Sa'alibi al-Fasi, un des grands savants de Fès. Donc voilà pour ce qui est de ce sujet. Vous trouvez le livre, il existe dans le commerce. Et vous trouvez donc tous les grands noms, depuis le Sahaba jusqu'à nos jours, des grands savants. Il en donne un très très bon aperçu. Et il ne se limite pas aux savants du Maghreb ou de Sharq ou de l'Arab, donc il parle de tout le monde, et c'est quelque chose qui est très très bien fait. Donc, parler de Al-Sunna al-Jama'a, ça suppose qu'il y a des noms qui représentent Al-Sunna al-Jama'a. Mais parler de Al-Sunna al-Jama'a, c'est aussi dire qu'il y a une façon de faire et une façon de voir, une façon de raisonner et une façon d'être. Parce que dans les temps passés, les gens qui ont dévié de l'islam, qui ne se réclamaient pas de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, Mu'tazila par exemple, quand il parlait de l'I'tizal, ils ne se reconnaissaient pas dans Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Ils disent nous et Al-Sunnah. Shia, ils disaient nous et Al-Sunnah. Mais aujourd'hui, le problème il a un petit peu changé parce qu'il y a encore des corpuscules comme ça, des tawaïfs qui ont fait leur apparition, qui se réclament de l'islam, qui se réclament de Al-Sunna ou Al-Jama'a, etc., etc. Mais le problème, est-ce que cela est vérifiable? Est-ce que cela est vérifié? Eh bien, c'est très simple. Il suffit. Moi, quelqu'un m'a posé la question, quand je parle, est-ce que je vise telle mouvance? Moi, je ne vise personne. Moi, je donne le cadre de Al-Sunna Al-Jama'a. Qui sont Al-Sunna Al-Jama'a? Comment ils ont fait les choses Al-Sunna Al-Jama'a? Et maintenant, vous pouvez prendre n'importe qui et le comparer à ce cadre. Si ça colle, ça colle. Si ça colle pas, vous pouvez tout simplement conclure. La conclusion, elle est très facile à faire. Bien. Alors, on va donc faire un petit aperçu aujourd'hui sur le comment et comment il faisait l'ijtihad, comment il concevait les choses, etc., etc. Au temps de Nabi alayhi salatu salam, le problème était très simple parce que la personne du prophète alayhi salatu salam était là. Le Coran, il descendait encore, et tout problème qui se posait dans la société, il trouvait sa réponse dans le Wahy qui descend, ou dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est là pour répondre. Seulement, les textes sont limités, la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus parmi nous. Est-ce que pour cela, est-ce que pour autant, Sharia al-Islamiyya doit s'arrêter? Bien sûr que non, puisque Sharia al-Islamiyya, Allah Azza wa Jal l'a descendu pour tout lieu et pour tous les siècles, toutes les générations, tout lieu et tous les temps. Donc l'islam il est universel dans l'espace et dans le temps. On ne peut pas dire que l'islam il était valable il y a 15 siècles et pas valable aujourd'hui, comme certains le disent ici même sur le Manabir. L'islam archaïque, etc. Il n'y a pas d'islam archaïque. Il y a le haq et il y a le batil. L'islam c'est le haq, ce qui n'est pas l'islam c'est le batil. Donc, de ce constat, il faut ajouter aussi un autre constat, c'est que les problèmes qui se posent, eux, ils ne sont pas limités. À chaque période, à chaque jour, chaque situation, il y a des problèmes qui se posent où l'islam doit donner sa réponse. D'accord ? Ce qui suppose donc qu'il faut une manière de faire, une manière de réfléchir qui est adoptée par Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a et qui est la vraie, qui est la bonne. Le premier problème qui s'est posé dans la société musulmane après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était le problème de la succession. Le problème de la succession. L'umma, l'islamia, a perdu son chef, mais l'umma l'islamia, tout le monde savait qu'ils n'ont pas le droit de rester sans chef, sans tête. Donc il fallait désigner ce qu'on appelle un calife, quelqu'un qui reprend les règnes de l'umma l'islamia et qui s'appelle le khalifa. Donc le premier problème qui s'est posé, qui prend la succession du prophète alayhi salatu wa sallam, pas dans la prophétie bien sûr, mais dans la fonction du khalifa. Et là, avant même d'enterrer le Nabi alayhi salatu wa sallam, le débat a commencé entre le Muhajirin ou l'Ansar, et le débat était donc là, et certains disaient voilà ce qu'il faut faire, les autres ils disaient voilà ce qu'il fallait faire, l'Ansar il disait non, il faut que le Khalifa soit parmi nous, les autres ils disaient non, il faut que le Khalifa soit parmi nous, les autres ils disaient le Khalifa on peut en désigner deux. Et là, Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, qui était devant le prophète, a été appelé d'urgence à intervenir. Et comme Abu Bakr al-Siddiq, vous savez qu'il était le plus savant après le Nabi, il intervient, donc là où le débat avait avait lieu. Et il a fait son intervention en appuyant son avis avec des versets du Coran. Lorsque Abu Bakr al-Siddiq a posé au milieu donc de l'assemblée al-Qur'an, tout le monde s'est tu. Tout le monde s'est tu. Tous ceux qui avaient un avis s'est rendu compte qu'en fait son avis n'était pas juste devant ce que Abu Bakr al-Siddiq a mis en face d'eux. Le Coran, Yaqoul, à ce moment-là, tout le monde s'est tu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, dans la tête des musulmans, la première référence à laquelle il faut recourir quand il y a un problème, c'est quoi? Coran. Et donc là, a commencé à se dessiner la manière de faire les choses. Donc la manière de faire les choses, c'est en premier lieu de définir les sources de législation. À quoi on doit se référer lorsqu'il y a un problème? Et ça fait partie des piliers de la manière de faire. Et je dis ça parce que, de nos jours comme avant, certains vous disent, surtout aujourd'hui, même ici à la Sorbonne, il y a des gens qui font des études, des thèses, etc., etc., et pour vous dire, oh, mais bon, le Coran, c'est une source comme une autre. On peut étudier le Coran, comme on peut étudier donc l'œuvre d'un philosophe, ou comme on peut étudier. Et donc, on essaye d'écarter cette sacralité que Allah Azza wa Jalla a donnée au Coran, et de faire cette séparation entre le Coran et la sacralité que doit avoir le Coran. Donc le Coran, chez les musulmans, c'est quelque chose de sacré. C'est une source de vie. Allez. Et aujourd'hui, on vous dit, ouais, regardez, bon, quand il parle par exemple de certaines œuvres de l'imam Shafi'i, aujourd'hui ici, on vous dit, regardez comme Shafi'i, comment il sacralise le Coran. C'est pas normal, il faut qu'on... Yani, sous la couverture de l'étude, ou man'araf, ou philosopher, ou je sais pas trop quoi, on essaye de faire cette cassure. Chez les musulmans, cette cassure ne doit pas exister. Le Coran, c'est la parole de Allah Azza wa Jalla. Tu ne peux pas la comparer à n'importe quelle autre parole. Donc la première source, chez tous les musulmans, à l'unanimité, chez Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a, et même chez les autres d'ailleurs, c'est Al-Qur'an. Il y a un problème, on se réfère toujours au Qur'an. Si on cherche dans le Qur'an et on ne trouve rien, on se réfère à Sunnah. Si on trouve rien, s'il y a un problème nouveau qui se pose et qui ne figure ni dans le Qur'an ni dans Sunnah, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On cherche d'autres sources pour extraire la manière de vivre, la manière de penser, la manière de se comporter dans la société et pour donner la réponse nouvelle à la problématique qui se pose d'une façon très récente. Al-ulama, devant l'ayah, que nous avons cité la dernière fois, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce verset-là, il fait allusion à beaucoup de choses, mais entre autres, et la plus importante, c'est le consensus. Lorsqu'il n'y a rien dans le Coran, il n'y a rien dans le Sunna, et que les musulmans se mettent d'accord tous à l'unanimité sur un problème donné, eh bien, ça s'appelle en arabe l'ijma' ou le consensus, est une des sources principales auxquelles on doit se référer. Donc là, petit à petit, commence à se dessiner la façon de voir et la façon de la manière de mener les choses. Ensuite, il y a ce qu'on appelle al-qiyas. Donc ces références-là doivent être prises en considération عند أهل السنة والجماعة ils sont tous d'accord à l'unanimité sur ces références. Donc là, le premier point à traiter, quelles sont les références auxquelles on doit se ramener dans les problèmes nouveaux qui se posent, dans toute activité humaine, quelle qu'elle soit, on se réfère à quoi ? Al Qur'an, wa Sunna, wa l'Ijma', wa l'Qiyas. L'Qiyas, c'est donc là, le raisonnement par l'analogie. Il y a un problème sur lequel on trouve un texte, et un autre problème qui est similaire mais où il n'y a pas de texte, il y a, dans certaines conditions, on peut faire ce qu'on appelle l'analogie pour extraire des lois. Celui qui ne se reconnaît pas dans ces quatre repères, eh bien, il ne peut prétendre être de Al-Sunnati wal-Jama'a. Voilà, donc pour le premier point qui se pose. Puisqu'on parle de ce point-là, la référence chez les musulmans, c'est quoi ? Eh bien, on pourra donner un certain... On pourra détailler un petit peu ce point-là et parler de certaines choses qui sont très très importantes de nos jours qui, des fois, nous tracassent et qui nous cassent la tête et les pieds. Al-ulama, quand ils ont parlé de ce problème de référence, ils ont dit, il y a des références principales qu'on vient juste de citer, le Coran, le Sunna, l'Ijma' ou le Qiyas. Mais il se peut que des fois, dans toutes ces références, il n'y a pas de réponse. À ce moment-là, ils se sont dit, et tout ça c'est Al-Sunna ou Al-Jama'a, des fois ils sont unanimes sur certaines de ces références-là, ils ont dit, il y a d'autres références qui s'appellent des références secondaires. Des références secondaire. Et ils ont mis en place toutes les références secondaires en parlant par exemple de al-maslaha al-mursala. Al-maslaha al-mursala. Que veut dire al-maslaha al-mursala? Al-maslaha al-mursala, c'est l'intérêt. Quel est l'intérêt recherché par le charia islamien? Quand vous trouvez par exemple des textes qui parlent d'un certain nombre de choses. Par exemple, il vous dit telle chose est haram, telle chose est haram, telle chose est haram. L'ensemble des textes, des milliers et des milliers de textes, quand on les connaît, ils font dégager un certain nombre d'intérêts qui est recherché par exemple par le Coran et par le Sunna. On dit par exemple Al-Khamr. Al-Khamr, toutes les boissons alcooliques sont haram. À quoi veut en venir le Coran quand il nous interdit de boire de l'alcool? Qu'est-ce qu'il recherche exactement? Il recherche bien l'intérêt. C'est quoi cet intérêt? Eh bien, c'est de préserver chez l'être humain et dans la vie de l'être humain le moteur de la réflexion qui est l'aql. Donc, interdiction totale et absolue de détruire ce potentiel chez l'être humain qui est l'aql. Et vous trouvez beaucoup de choses qui sont interdites, qui viennent toutes converger vers cet intérêt. Et on dit donc l'intérêt recherché par le fait, par exemple, d'intervenir, d'interdire telle ou telle chose. Et donc là, on trouve dans l'ensemble des textes des intérêts qui sont recherchés par l'islam. Ce qu'on appelle l'arabia, maqasid al-sharia, et donc l'intérêt qui est recherché. Lorsqu'on lit, et l'intérêt, ce n'est pas l'intérêt personnel, ce n'est pas mon intérêt personnel que je recherche, ce n'est pas dans ce sens. C'est l'intérêt recherché par l'islam lui-même. Donc, et lorsque vous lisez, vous prenez tous les textes, la globalité des textes, vous trouvez que l'islam veut préserver l'être humain. Ça, c'est un intérêt suprême. Le préserver dans quoi? Le préserver dans ses croyances, ce qu'on appelle le dîn. Le préserver dans sa vie. Pourquoi il est interdit de tuer? Le crime, pourquoi il est interdit? Donc, pour préserver la vie, pour préserver la progéniture et la descendance, pour préserver le bien matériel. Et donc, lorsque vous lisez donc les textes, vous voyez pourquoi ceci est haram, 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 ou halal, halal, wajib, makruh, kala. Hein? Tout converge dans un seul sens, préserver l'intérêt de l'être humain et certains intérêts qu'on appelle les intérêts capitaux de l'être humain. Lorsqu'il n'y a pas de texte, eh bien, les savants qu'est-ce qu'ils font? Et ça c'est déjà Sahaba qui l'ont fait. Sina Omar ibn al-Khattab, c'était donc un as dans ce domaine-là. Eh bien, lorsqu'il y a un problème qui se pose et qui est nouveau, on ne va pas dire on va le laisser tomber. On va dire, on va voir quels sont les grands intérêts recherchés par l'islam et on voit est-ce que ce problème nouveau qui se pose, est-ce qu'il va dans le sens de l'intérêt recherché par l'islam ou est-ce qu'il va à l'encontre de l'intérêt recherché par l'islam. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est clair ou c'est difficile ou vous suivez ou là? Ah! Oh! Voilà ou là? Ah, j'ai au bout. Bon. Ah, si c'est difficile, je reprends, là, on baisse le niveau là. Ça marche?
Pour le bienfait de l'homme, c'est dans ce sens-là.
Voilà. Donc, il maslaha. Et donc le maslaha, le mot maslaha fait partie des sources et des références auxquelles on se réfère quand on veut légiférer sur un problème donné par exemple, ou sur une façon de voir les choses, ou sur une pensée, etc. etc. Donc hala, c'est aussi un des repères qui est considéré chez Al-Sunna ou Al-Jama'a. Ils sont tous d'accord à l'unanimité sur ça. Sauf que ils divergent sur le nom à donner à ça. Voilà sur quoi. Les uns, ils l'appellent comme ça, les autres, ils disent non, on l'appelle pas comme ça, on l'appelle comme ça. Mais le contenu est exactement le même. Al-Ulama Al-Malikiya, par exemple, ils appellent ça Al-Maslah Al-Mursala. Ulama Shafi'iyya, ils disent non, on n'appelle pas ça le maslaha al-mursala, on l'appelle le bid'a al-hassana. Appelez le bid'a al-hassana, ou appelez ça le bid'a al-mursala, bid'a le maslaha al-mursala, pardon. Mais le contenu est exactement le même, et tout le monde est d'accord sur ça à l'unanimité. Donc voilà, sur la manière de faire, et donc premier point, la référence. Qu'est-ce qui peut servir de référence? Il y a d'autres références secondaires qui sont citées, on ne va pas rentrer dans tout ça dans les détails, parce que ça fera un cours de usul fiqh, on n'en est pas là. Comme par exemple l'istihsan, comme cette de dara'i', hein, le fait d'éviter de problèmes. Le fait de laisser tomber un bienfait, si il nous amène en même temps des problèmes, le mieux c'est de laisser tomber pour éviter les problèmes. Et d'autres sources secondaires Comme ça, qu'on peut étudier avec beaucoup de détails dans Usul al-Fiqh. Par contre, là, sur ce point-là, pour terminer sur ce point-là, il y a une règle et une source ou une référence que aujourd'hui on nous sort à tout bout de champ. On nous dit ouais. Et il s'avère que, à l'unanimité de tous les savants de Ahl-Sunnah al-Jama'a, cette source n'a jamais été un repère, ça n'a jamais été une source chez les musulmans. Et qui s'appelle Tarku Shay, yani le fait de ne pas faire. Pour... Des fois on te dit que telle chose est bid'a, telle chose ne... on ne fait pas telle chose. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas fait ça. Vous voyez, cette, ça, le prophète n'a pas fait ça, donc on ne doit pas faire ça. Ça c'est une source qui est tellement citée de nos jours qu'on se dit, mais d'où vient-elle? Chez les savants de Ahl-Sunnah al-Jama'a, à l'unanimité, le prophète n'a pas fait, donc on ne fait pas, n'a jamais été une source, n'a jamais été un repère. C'est peut-être un peu choquant, mais c'est comme ça. Par exemple, on vous dit, il y a des gens qui rentrent dans une mosquée, trouvent les gens lire, en train de lire le Coran, jama'a, en groupe. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tout de suite, ils te disent, ça c'est une bid'a. Mais d'où tu sors que ça c'est une bid'a? Il te dit parce que le prophète n'a jamais lu comme ça. Si le prophète n'a jamais lu de cette façon, alors il ne faut pas lire de cette façon, alors cette façon est bid'a. Cette règle, ce raisonnement n'a jamais existé chez les musulmans. Ce n'est pas une source, ce n'est pas une référence chez les musulmans. Ça, il faut que ça soit clair dans les têtes. Le Nabi alayhi salam, lorsqu'il ne fait pas quelque chose, on est dans deux cas. Soit il ne l'a pas fait parce qu'il y a un texte qui lui dit de ne pas faire, donc nous aussi on ne doit pas le faire. Mais à ce moment-là, on ne doit pas faire, ce n'est pas parce que le Nabi alayhi salam ne l'a pas fait, mais c'est parce qu'il y a un texte qui nous l'interdit. Le texte nous dit ne faites pas, donc je ne fais pas. Mais le deuxième cas alors, dans ce cas, le deuxième cas, le Nabi alayhi sallam, il n'y a aucun texte qui l'interdit, il n'y a aucun texte qui, yani, une pratique qu'aucun texte n'interdit, aucun texte ne dit de ne pas faire, ou le Nabi alayhi sallam ne l'a pas fait. Est-ce que pour autant, on doit ne pas faire? C'est là la question. Par exemple, aujourd'hui, on vous dit, al-Moulid al-Nabawi, le fait de fêter le Moulid al-Nabawi, tout le monde dit, ah, c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète n'a jamais fait. Mais qui t'a dit que tout ce que le prophète n'a pas fait est à ne pas faire? Ça, c'est une règle qui a été inventée, made in 19e siècle. Alors, ça peut vous choquer. Dire que le prophète n'a pas fait, donc on ne fait pas, ça n'a jamais, jamais, jamais été une règle, ça n'a jamais été une référence. Alors, dans ce cas, vous allez me dire alors les choses que le Nabi alayhi sallam n'a pas faites. Comment on doit se comporter devant ces choses-là? C'est là où interviennent les sources secondaires dont on vient juste de parler. On va dire, le Nabi alayhi sallam n'a pas réuni le Coran, il n'a pas écrit le Mus'haf en entier comme étant un livre. Ça n'a jamais été fait par le Nabi alayhi sallam. Pourtant, le Coran a été écrit et rédigé et transcrit sur papier de A à Z, mais jamais réuni. Qu'est-ce qui, pour la première fois, a réuni le Coran? C'est bien? C'est Abu Bakr, As-Siddiq. Et pourtant, le Nabi alayhi sallam, il ne l'a jamais fait. Est-ce qu'Abu Bakr As-Siddiq, il a fait une bid'a? Le Nabi alayhi sallam, il n'a jamais écrit un livre de hadith. Les premiers qui ont commencé à écrire le hadith, c'est la génération de Imam Malik et de Imam Zuhri, etc., etc., Hadou, ils ont écrit le hadith. Mais est-ce que Nabi A.S. il a écrit le hadith? Et est-ce que le fait d'écrire un livre qui contient le hadith est une bid'a? Dites-moi alors que le Bukhari il a commis une bid'a. Dites-moi que l'imam musulman a commis une bid'a. Parce que Nabi A.S. n'a pas fait ça. Donc, c'est une règle qui est fausse. Que le fait que Nabi A.S. n'ait pas fait quelque chose, on est d'accord. Mais là, cette chose que Nabi A.S. n'a pas faite est sujet d'étude. On la pose sur la table et on l'étudie. Première chose, on regarde si un texte nous l'a interdite. À ce moment-là, on est dans l'obligation de s'en écarter. S'il n'y a aucun texte qui en parle, ni de bien ni de mal, à ce moment-là, on sort ce qu'on vient de dire maintenant, al-maslaha. Et on essaye de comparer ce nouveau problème, cette nouvelle pratique qui se pose dans la société, et la comparer à ce qu'on appelle al-maslaha, pour voir est-ce qu'elle nous amène une maslaha telle qu'elle a été définie par les textes et par l'islam ou pas. Si oui, elle peut devenir bid'a, comme dit l'imam Shafi'i, wajiba. Obligatoire. Bid'a, mais obligatoire. Elle peut devenir bid'a, mustahabba. Elle peut rester dans mubaha, permise à faire ou à ne pas faire. Elle peut être aussi, même s'il n'y a pas de texte, une bid'a makruha. Elle peut aussi être une bid'a qui est haram. Et elle peut aussi être une bid'a qui fait sortir de l'islam. Donc, ce que Nabi A.S. n'a pas fait, n'est pas pour autant à rejeter. Ce que Nabi A.S. n'a pas fait, c'est quelque chose qu'il faut poser sur la table et essayer de faire une étude complète sur le nouveau problème qui s'est posé à la société. Et on est ainsi pour le Coran Jama'a, pour ceux qui lisent le Coran ensemble. Il en est de même pour ceux qui fêtent le Moulid al-Nabawi. Il en est de même pour ceux qui écrivent des livres sur l'islam. Il en est de même pour ceux qui utilisent Internet pour apprendre l'islam. Il en est de même, Nabi A.S. n'a jamais utilisé Internet. Est-ce que pour autant on va dire que c'est une bid'a? Bien sûr que c'est une bid'a, si on veut l'appeler comme ça. Mais ça peut être une bid'a wajiba. Nabi A.S. n'a jamais mis en place une grande bibliothèque avec beaucoup de livres. C'est aussi une bid'a. Donc ça, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, on fout surtout ça. Ah, Nabi A.S. n'a pas fait ça. Donc, on ne doit pas faire. Si on dit oui, c'est faux. Ça n'a jamais été une règle, ça n'a jamais été une des références de Sharia l'islamia. Donc voilà, ça c'est le premier point qui concerne la référence. À quoi se référer quand il y a un problème? À quoi se référer pour commencer à réfléchir, pour commencer à penser et à penser un problème et à résoudre un problème, etc. Est-ce que l'air ça ou si c'est une question comme ça, on peut la traiter vite fait avant de passer à autre chose. Sur ce point-là.
Le hadith sur quoi il se base, sur Kulubid al-Hindala, c'est ça le hadith qui est le bid'a?
Non.
Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce hadith? Est-ce que la bid'a c'est
قال كل بدعة ضلالة. Alors ce hadith, il n'est pas, c'est ça le problème. Il faut jamais prendre un hadith et venir dire voilà j'ai un hadith. Parce qu'avec ce hadith, il y a d'autres hadiths. D'accord? Kullu. Le mot kullu veut dire la généralisation. Kullu, c'est tout. Toute bid'a, toute rénovation est un égarement. Dans le mot kullu, qui a le sens de la généralisation, est-ce que cette généralisation n'est pas restreinte quelque part et avec d'autres textes? Donc voilà le problème qui se pose. Et là, vous allez trouver d'autres textes qui font cette restriction et qui éliminent beaucoup de bid'a qui sont dans la lac, des bid'a qui sont donc qui mènent vers la dérive et l'égarement. Mais il y a d'autres choses qui sortent de ce mot kullu, qui ne sont pas contenues dans le mot toute bid'a. Par exemple, الحديث كي تروفي دون الأربعين النووية من أحدث في أمرنا ما ليس منه لبو ما ليس منه سابو دون ست ريستريكسيون ce qui n'est pas de l'islam et qui est donc inventé. Par exemple, quelqu'un qui veut nous inventer une autre façon d'adorer Allah Azza wa Jal. Hein, il fait une petite composition entre la prière ou le yoga et machin, etc. Et il invente une autre façon de faire les choses. Alors, bien sûr qu'on va lui dire, tu es dans une bid'a, parce que cette bid'a-là, elle n'a pas de racine dans l'islam. De façon très... Maintenant, si vous voulez parler de bid'a, il faut aussi toute une séance pour parler de bid'a, ce que c'est que bid'a, etc., etc. Voilà, donc c'est pas une source, le fait de ne pas... que le Nabi Hassan n'est pas fait, c'est pas une source. Le deuxième point, c'est que Al-Sunna al-Jama'a, ils se sont dit, nous avons des textes, qui est le Coran, et qui est la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Sunna, comme on l'avait défini il y a deux semaines. Première chose à faire, c'est de s'assurer et de mettre en place des moyens pour s'assurer que ce qui est dit est véritablement la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Et véritablement la parole de Allah Azza wa Jal. Donc pour le Coran, il y a le tawatur, le problème est résolu. Et pour le hadith, il y a ce qu'on appelle l'ilm al-hadith, sahih ou sanad, etc. Ce qu'on a vu il y a 3 ou 4 semaines, on ne va pas y revenir. Maintenant, nous avons entre nos mains des textes où nous avons la certitude absolue que c'est bien des choses qui ont été dites par le Nabi alayhi salatu wasalam. Qu'est-ce qu'il faut alors maintenant? Ce qu'il faut, c'est mettre un deuxième garde-fou. Le premier garde-fou, c'est de s'assurer de la véracité de ces textes. Le deuxième garde-fou, c'est de mettre des règles de compréhension. Comment je comprends correctement ce texte que j'ai entre les mains et qui est sûrement un texte dit par le Nabi alayhi salatu wasalam. Hada, c'est aussi un point à étudier, et Al-Sunna wal-Jama'a, ils ont sur ça toute une panoplie d'études. Celui qui la suit fait partie de Al-Sunna al-Jama'a. Celui qui ne la suit pas, il ne peut en aucun cas prétendre être de Al-Sunna al-Jama'a. D'accord? Par exemple, pour bien comprendre les textes, les ulama, ils ont mis en place des systèmes. Donc ils disent, bien sûr, qu'ils ne tombent pas du ciel, des règles qui ne tombent pas du ciel comme ça, c'est des règles qui sont extraites du Coran et du Sunna. Le Coran ou le Sunna, c'est dit en langue arabe. Donc la première chose à avoir, c'est de comprendre l'articulation donc de la langue arabe, comment la langue arabe elle fonctionne, comment on la comprend. Contrairement à ce qu'aujourd'hui aussi, il y a certains chercheurs qui crient haut et fort, qui te disent, ouais, le Coran ou le Sunna, il faut pas me mettre dans la restriction de la langue. Laisse-moi comprendre comme je veux, comme ça, dans le nuage. Je comprends le Coran comme je veux. Est-ce que je peux comprendre aussi Victor Hugo comme je veux? Certainement, la réponse, elle n'est pas la même. Ou là, quelqu'un qui en français me dit, le printemps est venu et les arbres sont fleuris. Si tu me laisses libre, tu ne me mets pas dans la contrainte de la langue française, je peux comprendre que tu veux me dire qu'en fait les rats sont en train de courir dehors. Je peux comprendre ça comme ça. Pas me mettre dans la restriction de la langue arabe. Et il y a des thèses comme ça qui crient haut et fort la liberté de penser, la liberté, et sous cette étiquette de liberté de penser, les gens ils veulent faire du Coran et du Sunna un véritable torchon. Et ça, c'est pas les années passées, c'est pas les siècles passés, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'instant même où on est en train de parler, il y a des gens qui écrivent des thèses, qui passent des thèses, de doctorat, etc. sur ce problème-là. Laisse-moi comprendre comme je veux, dans les nuages, maintenant. قل له مثلا لا لوميير ايت الومي قل كوي ما جو كومبرون كو سا سا فو دير جو ندوا با ميتر مي شوسيت فوالا بوكوا با لا ليبرتي دو بونسي Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que si il n'y a pas un vocabulaire commun que tout le monde doit comprendre de la même façon, les êtres humains ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas se comprendre. Et donc, pour ce qui est du Coran ou Sunna, les ulama, ils ont mis en place un processus. Ils se sont dit, les textes du Coran ou Sunna, qui sont nos références, eh bien, la première constatation qu'on peut faire, c'est que dans le sens qui se dégage de ces textes, yani, du point de vue sens qui se dégage de ces textes, on constate que les textes ne sont pas tous au même niveau de clarté. Et ça, c'est voulu. Quelque chose que, et qui est voulu par Allah Azza wa Jalla. Donc vous prenez un autre verset, celui-là il est très clair, celui-là, et c'est fait exprès, il est moins clair. Et il y a un but qui est recherché derrière ça. Par exemple, le premier type de texte, ils lui ont donné un nom. Il y a les ulama, ils ont donné un nom à ce premier type de texte, le type de texte qui ne peut donner qu'un seul sens et un seul. Où on ne peut pas comprendre deux choses en même temps de ce texte. Et je vous ai donné la dernière fois des exemples, comme par exemple « Hurrimat alaykum al-maytatu wa-d-damu wa-lahmu al-khinzir » Allah Azza wa Jal vous a interdit le mayta, yani la bête qui est morte comme ça, yani sans raison. Maitatu, ad-damu, al-masfouh, yani le sang qui coule, il est strictement interdit de le consommer. Ah, il y a des gens qui se blessent, qui commencent à sucer, ça c'est haram, c'est des choses. Wa lahmu al-khinzir, lahmu al-khinzir, c'est la chair du porc. Qu'est-ce que vous allez comprendre dans ce verset? Il n'y a pas 36 compréhensions. Al-khinzir, le porc, qu'il soit des fermes ou qu'il soit sauvage, haram. Et une seule compréhension, et le texte est clos. Et d'ailleurs, ils ont donné un nom à ça, ils l'ont appelé un nas. C'est là où on dit l'ajtihad an-nas. C'est dans ce cas. Ensuite, ils se sont dit, il y a un deuxième type de texte. Ce deuxième type de texte fait que on peut comprendre le texte de deux façons, au moins. Et ça existe. Il y a un premier sens qui se dégage du texte, qui s'appelle le sens propre. Il y a un deuxième texte qui se dégage, qui s'appelle le sens figuré. Et ça existe aussi dans le Coran. Et ça existe dans le Sunna. Seulement, devant ce type de texte, ils se sont dit, viens, on va mettre des règles aussi pour ne pas laisser les gens jouer comme ils veulent. Voilà comment on peut comprendre ce type de texte. Et ils ont donné des règles à suivre. Et c'est des règles qui ont été suivies par Sahaba, par Tabi'in, par ceux qui les ont succédés, et par tous les gens qui les ont succédés jusqu'à nos jours. Ensuite, il y a aussi des règles qui concernent les textes qui parlent de la, d'une façon... qui exprime une généralité, donc il y a un problème qui doit être généralisé à tout le monde. Je sais que c'est un petit peu concret, voilà, si y a un problème, s'il n'y a pas de compréhension, vous me le dites et on donne des exemples pour faciliter un peu les choses. Il ne faut pas hésiter de m'interrompre. Ça va jusque là, là? Oui, non? Bon sujet.
Hajjal Mita, la juste. Comment on comprend que le poisson on peut le manger même un an après qu'il soit mort?
Voilà, par exemple, une question. Hajjal Mita, c'est la bête qui est morte comme ça sans être égorgée. Comment on peut comprendre que le poisson, on peut le manger comme ça, même s'il est mort, même si on le trouve flottant sur, sur l'eau? Eh bien, il suffit de revenir aux références. Les références, vous dites que, on nous dit que, il y a une différence entre l'animal aquatique, l'animal terrestre. Donc, c'est le texte qui définit al-hout. C'est quelque chose, autre chose, c'est autre chose. Donc, c'est le texte qui le dit carrément. Voilà. Donc, j'ai du mal à tourner un peu les idées, à exprimer les idées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut réagir parce que sinon.
Si on réagit à ça, c'est que c'est bon.
Ah, alhamdoulilah, j'espère.
C'est clair.
C'est clair,
c'est clair.
Bien. Alors, toujours dans la classification des textes. Il y a des textes qui parlent d'une façon, il y a qui expriment quelque chose, mais qui doit être généralisé à tout le monde. Tout le monde est concerné par ce que le verset dit. Bon, si vous voulez, je peux vous donner des exemples. Sur un nas, sur le premier type de texte, j'ai dit donc حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ou حرمت عليكم أمهاتكم. Dans le mariage, il vous est interdit de vous déposer vos mamans, vos sœurs, vos filles, etc., etc. Dans le deuxième type de texte, dans le deuxième type de texte, مثلاً, il dit quand il parle de l'wudu, dans le Coran, quand il parle de l'wudu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا. Qu'est-ce qui nous intéresse dans le texte? Dans le texte, il y a le mot « Aou ja'a ahadum minkum minal gha'it ». Ce texte, il parle de ce qui annule l'oudou. Qu'est-ce qui annule l'oudou? Donc la liste, elle est connue. Ce qui annule l'oudou, c'est le fait de faire ses besoins urinaires, excréments, gaz, etc. Dans ce texte, il vous dit « Aou ja'a ahadum minkum minal gha'it ». Que veut dire le mot « gha'it » ? Al-Ghaït, c'est la terre qui est creuse comme ça, qui fait toute partie de la terre qui présente un creux comme ça, ça s'appelle en arabe Al-Ghaït. Donc, dans le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce qui annule l'eau, c'est lorsque, il y a une partie des choses qui annule l'eau, c'est lorsque vous allez dans un endroit creux comme ça, qui s'appelle Al-Ghaït. Quand vous allez comprendre ce texte? Quand vous allez comprendre ce texte? À chaque fois que je passe devant un creux ou là devant un arbre, il faut que je refasse le dos. C'est ça? Bien sûr que non. Alors que veut dire le mot ra'it? Et le mot ra'it, il a un sens propre qui veut dire ce creux, ce fameux creux. Mais le mot ra'it, il est utilisé dans le sens figuré, dans le sens où les gens, dans leur habitude, quand ils allaient faire leurs besoins, ils le font où en général? C'est certainement pas sur une bosse, mais sur un endroit qui est creux. Et donc, les excréments, les selles, ont pris le nom de l'ra'it de l'endroit où on fait ses besoins. Qu'est-ce qu'on comprend alors de ce texte? Le sens propre ou le sens figuré? Hein? Le sens figuré. Voilà un exemple de texte qui donne deux sens. Avec les exemples, je pense. Voilà. Pour ce qui est donc de ce qui est général et pas général, etc., il y a des textes qui parlent donc de choses et qu'il faut appliquer à la totalité ou là, d'une façon qu'il faut généraliser à toute la population. Mais il y a des textes qui parlent inversement à des choses qui ne s'appliquent que particulièrement à un groupe de personnes. Donc ce genre de texte existe et il faut les comprendre, il faut les connaître. Al-Sunna ou al-Jama'a, ils ont mis en place des choses qui nous fassent comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de généraliser ou est-ce qu'il s'agit de ne pas généraliser ou est-ce qu'il s'agit de la particularité ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose autre que la particularité. Et donc, il y a des termes, il y a des tournures de phrases en arabe qui font comprendre qu'il s'agit de ceci ou il s'agit de cela. Donc, hada, c'est des choses qui sont répertoriées, qui sont sues par tout le monde. Pour ceux qui veulent se dire, voilà, j'ai le hadith, j'ai l'ayah, et je fais partie de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Il y a encore d'autres types de textes qui sont du type al-mutlaq ou al-muqayyid. Mutlaq ou al-muqayyid. Mutlaq ou al-muqayyid, c'est quoi? Il y a des textes qui parlent, qui vous demandent de faire quelque chose. Qui vous parlent en vous disant de faire quelque chose. La chose qui vous est demandée est-elle soumise à une restriction ou pas? Je vous donne un exemple. Si je vous dis par exemple, donne-moi une chaise, cherche-moi une chaise. Tu vas te lever, tu vas chercher une chaise. Quelle chaise il faut chercher? Une chaise en bois? Une chaise rouge? Une chaise en plastique? Métallique? Je dis, cherche-moi une chaise, d'une façon absolue. Tout ce qui peut s'appeler chaise. Maintenant, si je vous dis, cherche-moi une chaise en bois. Par rapport au premier cas, j'ai fait des restrictions. N'est-ce pas? Eh bien, il y a des types de textes comme ça, dans le Coran et dans le Sunna, et qu'il faut comprendre. Et les ulama, ils ont répertorié tout ça, et ils ont mis en place des règles pour bien comprendre et ne pas glisser, pour ne pas comprendre le Coran ou le Sunna n'importe comment. La dernière fois, je crois que je vous ai donné un exemple. Celui de Dam al-Masfouh. Il me semble qu'on a donné cet exemple-là. Par exemple, Allah Azza wa Jalla vous dit « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرُ وَالْدَّمُ » Ici, dans ce texte-là, il a dit « حَرَمٌ عَلَيْكُمُ الْدَّمُ » Le sang. Quel qu'il soit, où qu'il soit, dans ce texte-là, le mot « dam » il n'est soumis à aucune restriction. On vous parle tout simplement de sang. Interdit. Donc ça suppose, si vous ne prenez que ce texte-là, vous ne prenez que ce texte, ça veut dire que le sang du foie, il est interdit, donc c'est interdit de manger le foie, c'est interdit de manger le cœur, c'est interdit de manger les muscles, c'est interdit de manger là où se trouve le sang. Oui. Qu'est-ce qu'il reste? Les os ou chan et la graisse. C'est tout. Donc vous égorgez un poulet ou un mouton, vous jetez tout, vous prenez la graisse, les os, et vous allez à la maison. Ah, si, peut-être la laine. Parce qu'il n'y a pas de sang dans la laine. Faut-il comprendre ce texte comme ça? Non, il y a d'autres textes qui viennent et qui donnent une restriction. Dans Sourat Al-An'am, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً. Donc là aussi, je ne trouve rien d'autre, je ne trouve rien d'interdit dans ce qui m'a été révélé, sinon qu'il soit مَيْتَةً أَوْ دَمًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا. Dans ce deuxième verset, il parle de dam مَسْفُوح. Là, il ne parle pas que le sang, que de sang, comme ça d'une façon générale, mais il parle de sang avec une restriction d'amen mesfouh. Mesfouh, ça veut dire qu'il coule. Qu'est-ce qu'on comprend alors? Alors, première règle, c'est qu'on doit mettre côte à côte les versets. On ne va pas choisir les versets chacun tout seul. Deuxième chose, le verset avec l'autre, il doit agir sur le deuxième verset doit agir sur le premier verset et donner la restriction, même si dans le premier verset, elle n'y est pas. Donc à ce moment-là, comment on comprend le verset? Le sang qui coule, c'est lorsque vous égorgez, le sang qui commence à couler, il est interdit. Mais le sang qui reste dans les veines, le sang qui reste dans les muscles, le sang qui reste dans la rate, etc., etc., il reste halal, il reste le sang qui reste dans le poisson, ainsi de suite. D'accord ? Voilà. Aussi, on va faire un peu de. Un petit exercice peut-être pour reposer un peu. Yallah, on va voir si vous avez compris. Quelque. Lorsque un texte n'est pas soumis à une restriction. D'accord ? Il n'est pas soumis à une restriction. Et vous avez un deuxième texte qui apporte une restriction. On a dit que il faut que le deuxième fonctionne avec le premier. N'est-ce pas ? Mais bien sûr avec des règles. Lorsque vous prenez le problème de l'assassinat, من قتل مؤمنا متعمدا فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة يعني celui qui tue un croyant, un musulman, bien sûr par erreur, celui qui assassine avec, c'est un autre problème, يعني par erreur il doit affranchir, يعني بكري il y avait les esclaves, donc affranchir un esclave. Mais dans ce texte-là, il vous dit affranchir un esclave croyant. Affranchir un esclave, zed, croyant. Fatahriru raqabatin mu'mina. Dans un autre verset qui parle d'autre chose, de dhihar, il y a une faute qui est commise et cette faute-là, Allah Azza wa Jalla nous dit, celui qui commet cette faute, al-dihar, fatahriru raqabah. Fatahriru, affranchir un esclave. Mais il ne dit pas mu'mina. Alors, quand il s'agit de tuer quelqu'un, bien sûr, par erreur, tahriru raqabah, mu'mina, affranchir un esclave croyant, dans l'autre problème, il s'agit d'affranchir un esclave. Donc ça, c'est dans le temps où il y avait les esclaves. Est-ce que ce verset-là doit venir apporter sa restriction sur celui-là ou pas ? C'est clair, on a dit que il faut que il y ait la restriction de l'autre côté aussi. Oulala. Je ne sais pas si vous me suivez ou là.
Le même exemple que vous avez donné auparavant.
Voilà. Fatahrir raqabatin mu'mina. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Al-ulama, lorsque vous prenez, lorsque il y a le problème de la vie enlevée à quelqu'un par erreur, vous affranchissez un esclave croyant, mais dans l'autre aussi, il faut le faire avec un esclave croyant, même si le verset ne dit pas croyant, donc même s'il n'y a pas la restriction dans l'autre verset.
J'avais une question par rapport à ça. Il y a une raison pourquoi, réelle, par rapport à la description, pourquoi on le voit dans ce sens-là.
Wallah, il y a des raisons, mais si on s'étale sur Hadar, on va rentrer dans Osul Fiqh.
En fait, hein. Dû à la réflexion, c'est des raisons de réflexion que je m'intéresse aux orientations.
C'est vrai, il y a des choses, mais ça demande d'expliquer d'autres règles, etc. C'est pas la faute.
Mais bon, alors.
Un autre exemple, peut-être plus facile, plus terre à terre. Allah Azza wa Jal, il nous dit, سبح اسم ربك الأعلى. Mais comme ça, il a dit, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى. Al-ulama, ils disent que là, il s'agit de commencer la prière. Subhi isma rabbika al-a'la, alladhi khalaqa fa sawwa, alladhi qaddara fa hada, alladhi akhraja al-mar'a fa ja'ala ghutha'an, zid al-aya. سنقرئك اوكا فلا تنسى الا ما شاء الله الايه يعني اجل نعم وذكر اسم ربه ايوه هذه وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى سيدي العلماء يجي كيف كيف بدي ذكر اسم ربه فصلى c'est-à-dire que lorsque vous voulez faire la prière vous dites quoi non ذكر اسم ربه لا pas dit كبر ها لا pas de pensée ذكر يعني si vous prenez juste ce verset à lui seul ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous voulez faire la prière vous pouvez dire Allahu Akbar je peux dire Subhanallah je peux dire Alhamdulillah je peux dire La ilaha illallah Alhamdulillah هكذا ذكر donc là ذكر n'importe lequel n'est-ce pas ذكر اسم ربه قل بسم الله أولد الله أكبر Mais ça, c'est on ne prend que ce verset-là. Mais ce verset-là, qui n'a pas de restriction, doit faire appel à d'autres versets quelque part, comme la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous dit, تَحْلِيلُهَا أَوْ إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا السَّلَامُ Quand il parle de salat, il dit, تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول quand on veut commencer la prière qu'est-ce qui par quoi on commence التكبير donc le verset qui donne un sens très large de ذكر الحديث qu'est-ce qu'il vient faire il vient faire la restriction tac il vous dit l'ayat il vous dit ذكر et le hadith il précise de quel ذكر il s'agit et il s'agit bien de dire Allahu Akbar et rien d'autre et donc lorsqu'on veut commencer la prière on dit الله أكبر نعم سبحان الله بسم الله وفورتان الورسي اللي ذكر اسم ربه فصلى ذكر بون موراليتي دي شوز ما سكو جو فولي دونك سو ا كوا جو فولي ان فينير دونك دون سات سيونس لا سي كو عند اهل السنه والجماعه فو با بير دو في كو سي دو سا كون بارل اي بيان نو دافون دو ريغل Le Coran et le Sunna fonctionnent avec une bonne compréhension. Une compréhension basée sur des fondements solides. Comme nous avons vu pour Sanad, comme nous avons vu pour l'assurance d'avoir un texte fiable, il y a des garde-fous. Les ulama, ils ont dit aussi pour que la compréhension soit bonne,